Tune in to CKUT 90.3 FM, Tuesdays, 3 p.m. to 5 p.m. for a special Black History Month edition of the Montreal Sessions. The month kicks off on February 1st with the best in reggae and soca with your hosts, Production Sounds and Soca Head. Week 2, February 8th, Wizzy Moonchaser, host of the Morning Detour, broadcast live from DG Kicks, a sneaker store in NDG. The final 2 weeks, 15th and 22nd, are hosted by Stephen Ziplocks Hennessy, educator, creator, and part of the Ill Groove Garden team. Don't miss it.
Les productions Nuit d'Afrique et Groupement TD sont fiers de vous annoncer l'événement Les nouveaux visages de l'Afro Jazz. Une soirée de concerts à ne pas manquer, qui nous fera voyager à Cuba, en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe, avec Demi Arocena, Donald Dogbo et Topion. Diffusé en direct sur la page Facebook de Nuit d'Afrique, le jeudi 24 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par M. Bayaji et by Riway. Au sommaire, cette semaine.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Dignité Noire sur le ACKIA 88.3 FM. Nous sommes le 7 février 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver en onde. Toujours en compagnie de mon fidèle complice Brice qui est à la mise en onde. Salut Brice, comment vas-tu?
Salut, ça va un peu.
Ça va un peu seulement. Bon, j'espère qu'à la fin de l'émission, tu vas bien aller. L'émission va te donner du tonus.
On espère, on peut y aller.
Parfait, merci mon cher. Alors, vous pouvez nous suivre toujours sur 88.3 FM, sur notre page Facebook Dignité Noire-CKIA FM, ainsi que sur nos différents sites web www.ckiafm.org, puis je pense sur Instagram, sur les réseaux sociaux, CKIA FM un peu partout. Fait que vous ne pouvez pas nous manquer. Si vous nous ratez, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours nous réécouter en balado sur www.ckiafm.org. Ainsi que sur notre page Facebook parce que les émissions sont archivées. Alors, au programme ce soir, c'est le mois de l'histoire des Noirs en février, fait que nous allons vous amener à la découverte des différentes communautés noires à travers la province. Comment ces communautés commémorent ce mois de l'histoire des Noirs? Comment elles les organisent? Comment elles vivent? Quelle est la réalité de ces communautés noires? Aujourd'hui, nous allons commencer, bien sûr, tout honneur, par la ville de Québec. Nous allons recevoir la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs de Québec, organisée par la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, Madame Dey Marie Fall. Ensuite, nous irons à Gatineau pour voir ce que la communauté des Noirs de Gatineau organise. Alors, je recevrai la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs de Gatineau, Madame Aïché Koné. Mais avant cela, c'est la chronique littéraire de Oumou. Alors, Oumou nous a fait une belle chronique. Elle a reçu, elle s'est entretenue avec une jeune écrivaine qui s'est auto-éditée, paraît-il. C'est la mode maintenant, il y a beaucoup d'auto-éditions. Fait qu'elle s'est auto-éditée, elle va nous parler de son livre qu'elle a édité récemment. Donc, je vous invite à présent à écouter l'entrevue qu'a accordée cette dame, Madame Pascal Blanche, quoi, à Oumou. Et puis après, nous allons nous entretenir avec les différentes porte-paroles du monde de l'histoire des Noirs. Bonne écoute.
Nous Nous sommes lundi dans le magazine Dignité Noire. Moi, c'est Oumou Guiro. Et aujourd'hui, pour ma chronique littéraire, je présente un livre, « Et si on existait ensemble ?». Donc aujourd'hui, ça va être assez particulier parce que je vais commencer directement par l'entrevue avec l'écrivaine, l'autrice, l'auteur, Julissa Paul Blanc, qui a écrit « Et si on existait ?». Donc c'est « Et si on existait ensemble ?». Pardon. Donc c'est un livre qu'elle a auto-édité. Donc j'ai Julissa aujourd'hui avec moi. Bonjour Julissa.
Salut Oumou, merci de me recevoir.
Merci à toi d'avoir répondu présente à l'invitation. Alors, j'ai vraiment été intriguée parce que quand j'ai vu ton post sur Facebook, moi, j'aime beaucoup lire des livres qui sont auto-édités. Et puis, c'est la première fois que je lis un livre auto-édité ici au Québec, au Canada, parce que moi, comme je suis originaire de France, je lis beaucoup d'auto-éditions en France. Donc, moi, déjà, la première question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre?
Bon, ça remonte de loin. Donc, moi, j'ai toujours aimé écrire. Puis, je te dirais que quand j'étais jeune, ça a toujours été très important pour ma mère qu'on se familiarise très bien avec le français. Donc, tu sais, les dictées, les mots, etc., ça a toujours fait partie de mon quotidien à chaque jour depuis très, très jeune. Puis, je te dirais également qu'en grandissant, j'ai toujours eu de la difficulté à m'exprimer verbalement. Donc, c'est comme si, étant déjà habituée d'écrire souvent, j'ai également appris à m'exprimer à travers mes écrits. Puis, c'est comme si, au début de l'âge adulte, j'ai comme compris que je pourrais être capable d'écrire un roman complet. Puis, c'est également vers cet âge-là que j'apprends à mieux me connaître, que je découvre que je fais un peu d'anxiété, ici et ça, puis que je ne sais pas trop à qui en parler, puis que je me rends compte que c'est tellement commun dans les communautés noires, que je me suis dit, ben pourquoi pas écrire des histoires avec des personnages principaux qui souffrent de santé mentale.
Parfait. Donc là, c'est, je l'ai vu sur Instagram, ce n'est pas ton premier livre, c'est ton deuxième livre, si je ne me trompe pas.
Exactement.
C'est ton deuxième livre. Donc là, tu as dit que c'était vraiment pour mieux communiquer que tu écrivais. Mm-hmm. Mais pourquoi, en fait, pourquoi la santé mentale?
Comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est parce que au début de l'âge adulte, j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété sociale. Puis bon, j'ai un médecin de famille, il me redirige vers d'autres experts. Puis ok, bon, peut-être anxiété sociale avec certains traits agoraphobiques. Donc ça a été très grand, très gros pour moi de me familiariser avec cette nouvelle identité. Mais ça m'a également permis de prendre soin de moi, puis de m'adapter, puis de m'outiller. Pour apprendre à vivre avec ça au jour le jour. Puis par la suite, je pense que ça m'a aussi également encouragée à aller étudier en psychologie à l'université. Donc, ça part du personnel. Puis finalement, j'en ai également fait ma carrière.
Parfait. Donc aujourd'hui, à temps plein, tu es écrivaine à temps plein, autrice à temps plein?
Non, mais je travaille en santé mentale.
Parfait. Parfait, donc c'était juste pour avoir une petite précision. Donc, moi, j'ai lu le livre, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a des choses que je ne m'y attendais vraiment pas. Bah, déjà, est-ce que tu peux nous raconter brièvement de quoi parle ton livre?
Oui, j'ai toujours de la misère à dire le résumé sans trop en dire, mais dans le fond, il s'agit de trois générations, une famille sur trois générations. Donc, on a un grand-père, un père, puis son fils. Puis, ça démontre à quel point la santé mentale est très tabou, puis comment elle peut évoluer à travers les générations. À quel point, au début, tu sais, c'est considéré comme de la folie, comme quelque chose qui peut être diabolique, comme quoi il faut en guérir. Puis, par la suite, on comprend que ça évolue, qu'il y a des nouveaux mots, des nouveaux termes pour désigner tel type de maladie, mais que ça reste tout de même très tabou d'en parler. Donc, ça parle d'un père qui a caché son identité à son propre père, puis dans le fond, qui a vécu une sorte de mascarade toute sa vie pour ne pas être rejeté, pour ne pas être considéré comme marginal dans la société. Puis, cette personne-là devient père à son tour, puis inconsciemment, il répète les mêmes erreurs avec son fils. Donc, la même ouverture que lui, il aurait souhaité de la part de ses parents, la même acceptance, la même écoute qu'il aurait souhaité, il en est incapable envers son propre fils, tout en sachant que ça a tout de même ruiné sa vie. Donc, c'est de voir à quel point les erreurs peuvent se répéter parce qu'on on ne va pas s'éduquer sur la santé mentale.
Parfait. Moi, tu sais, quand on parle du sujet, là, tu dis que c'est un sujet de santé mentale. Moi, personnellement, quand j'ai lu le livre, pour moi, c'était vraiment un sujet sur l'identité de genre. Je ne sais pas, comment, tu sais, pourquoi est-ce que tu dis que c'est plus un sujet de santé mentale, mais personnellement, quand j'ai lu, c'était plus un sujet d'identité de genre. Et justement, bah, je m'y attendais vraiment pas. Parce que quand ça commence au début, je pensais vraiment que ça allait parler d'immigration avec Karim. Donc, je me suis dit, bah, ça va parler de Karim qui arrive dans une école. C'est le seul noir dans une école secondaire. Donc, on va plus savoir comment Karim va s'intégrer, etc. Et puis, en fait, pas du tout. Donc, j'ai vraiment été très, très surprise. Et pourquoi, en fait, avoir fait ce choix-là? Après, je ne sais pas. Regarder plus en profondeur, est-ce que les personnes, de toute façon, ça n'a pas d'importance, les personnages après ou les personnages de l'histoire, est-ce qu'ils sont noirs?
Je réponds, tu as posé plusieurs questions, j'ai essayé de toutes les répondre.
Je suis désolée.
Non, il n'y a pas de souci. dans le fond, oui, ça parle beaucoup d'identité, mais souvent, l'acceptation dans notre identité ou la non-acceptation va mener justement à des problèmes de santé mentale. Par exemple, un des personnages principaux, Liam, qui essaie de se découvrir puis qui vit beaucoup de rejet. Mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup de symptômes dépressifs justement qui découlent de sa quête d'identité. Également, son père, on peut porter à croire qu'il n'est pas sain d'avoir porté un masque toute sa vie. Donc, les deux sont vraiment interreliés tout au long du roman. Puis, c'était quoi ta prochaine question? Pourquoi j'ai décidé de parler de...
Oui, de ça et de ne pas, tu sais, t'accentuer sur la personne racisée qui arrive dans une école et que c'est à cette personne racisée.
Parce que dans le fond, je compte également faire un tome 2. Donc, tu sais, le livre, c'est « Et si on existait ensemble? » Mais c'est de comprendre que chaque personne porte un bagage. Que ce soit identitaire, santé ou maladie mentale, tout le monde porte un bagage. Donc, comment est-ce qu'on peut conjuguer et vivre tous ensemble sans marginaliser les autres, sans apposer une étiquette sur les autres pour qui ils sont ou pour un diagnostic qu'ils ont. Donc, c'était identité, puis santé mentale était très interreliée. Puis, c'est sans compter que oui, la santé mentale est tabou chez plusieurs communautés, mais l'identité également, tout ce qui est transgenre, homosexualité, tout ça, c'est encore très tabou. Fait que je voulais vraiment essayer de parler des deux.
OK. Moi, j'avais une question. Est-ce que le personnage principal de cette histoire est noir?
On me pose souvent la question. Puis même dans mon premier roman, les gens me demandaient. Puis c'est une question à laquelle je n'aime pas répondre parce que je vous laisse faire votre dessin mental.
OK.
Okay. Tu vois, je pense que c'est important justement de vous laisser portrayer les personnages parce que la santé, l'identité, ça n'a pas de race, ça n'a pas de culture, ça n'a pas de pays, ça nous affecte tous. Donc, la manière dont vous voulez vous imaginer justement ces détails-là dans l'histoire, je le laisse au lecteur.
Oui. Ouais, moi j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Le seul point que j'ai trouvé un peu, je me suis dit, oh, c'est dommage et tout, c'est que les personnages, on ne sait pas s'ils sont noirs ou pas, bah, ça, c'est, comme on a dit, peu importe. Mais la seule personne noire qu'on sait, bah, c'est Karim, on sait que cette personne, elle est noire. Et qu'à la fin, bah, c'est quand il dit que oui, moi je ne me sens pas bien dans ma peau, etc., et qu'il en parle à son ami, et son ami, après, il en parle à Karim. Et tu sais, là, Karim, qui porte ce jugement-là sur cette personne-là, je me dis, ah ouais, c'est dommage, en fait, parce qu'on sait que la seule personne noire dans ce livre, c'est celle qui va porter un jugement, c'est celle qui va, genre, être le bien, le mal, le méchant, le gentil, c'est catégorisé comme le méchant. Moi, c'est juste ce côté-là où je me suis dit, c'est dur d'avoir l'histoire parfaite, mais moi, c'est le seul petit truc que je me suis dit, bon, dans cette histoire, encore une fois, le noir, c'est le méchant, et on essaie vraiment, tu sais, en tout cas aujourd'hui, de montrer différentes littératures, différents écrivains, différentes écrivaines qui montrent, tu sais, le positif dans les livres. Donc, moi, c'était juste la petite...
Je comprends très bien ce que tu tentes de dire, mais quand tu pousses la réflexion et que tu comprends que Karim, il a subi beaucoup d'intimidation quand il est venu à cause de sa couleur de peau.
Ouais.
Puis souvent, les personnes qui vivent de l'intimidation, ben, ils tentent de renverser la situation. Ils font tout en leur possible pour se sentir acceptés. Puis quand ils ont l'opportunité de changer de place avec quelqu'un, ils vont la saisir.
Mm-hmm.
Tu comprends? Mm-hmm. Donc, tu sais, je pense qu'elle a été rejetée, il a été jugé, il a été pointé du doigt de sa couleur de peau. Ah, ben tout à coup, la pression n'est plus sur moi. Fait que je vais essayer de me faire oublier puis de la porter sur quelqu'un d'autre. Fait que je pense qu'il faut également, non pas le portrayer comme un méchant, mais compatir avec l'intégration qu'il a pu vivre dans cette école-là. Puis dans le tome 2, justement, j'ai beaucoup plus approfondir tout ce qu'il a vécu par rapport à son déménagement, comment est-ce que ça a été difficile pour lui, comment sa famille ne l'a pas épaulé, n'a peut-être pas considéré. Tu sais, un enfant, on demande très peu son avis. Donc, justement, je pense que c'est très facile de juger quelqu'un sur ses actes. Mais dans mes livres, j'essaye vraiment de pousser la réflexion et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi. Est-ce qu'on peut montrer de la compassion, justement, et non pas juste juger le comportement. Fait que j'ai très hâte, justement, de faire grandir ce personnage-là dans le prochain tome.
Ah, c'est parfait. Donc, une autre question. Pourquoi est-ce que tu as auto-édité ton livre? Est-ce que tu as déjà... Parce que ça aussi, c'est quand même assez intéressant.
Oui. Oui, j'ai déjà envoyé... En fait, pour mon premier roman, j'avais envoyé dans des maisons d'édition. J'avais eu des réponses positives. Puis au Québec, on a l'Union des écrivains québécois. Puis ils offrent un service de lecture de contrats de maison d'édition gratuit avec un avocat. Donc, il m'a aidé à mieux comprendre les contrats. Puis je perdais trop de droits dans mon livre. Puis j'étais pas prête à ça. Au bout de la ligne, je me suis dit, je le fais pas pour l'argent. Donc, de perdre tous mes droits, de laisser modifier autant qu'ils veulent, que si c'est adapté au théâtre ou autre, mon nom n'apparaîtra nulle part ou je n'aurai même pas quelconque crédit, ça me convenait pas. Donc, j'ai préféré tout refuser puis y aller avec mon fait.
Oui, c'est ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de livres, on parle beaucoup d'auteurs, d'écrivains, d'écrivaines et d'autrices, et en fait, on se rend compte que la marge qu'ils reçoivent quand ils écrivent un livre est quand même assez minime. Donc, c'est aussi une part importante à prendre en compte. Julissa, quand est-ce qu'on peut avoir, en tout cas, la suite de ce roman?
J'espère vraiment être capable de le publier vers la fin de l'année, parce qu'en ce moment, je me concentre sur un recueil de poèmes qui parle qui parle un peu du deuil que souvent dans les communautés noires, on grandit avec un seul parent. Mm-hmm. Puis ça a été mon cas. Puis ça va être un recueil justement de textes et de poèmes portant sur ça. Mais pour le tome 2, et si on existe ensemble, j'espère le faire pour la fin 2022 ou début 2023.
Ok, ben en tout cas, j'espère te recevoir une prochaine fois pour le tome 2.
Merci avec plaisir.
Merci beaucoup, Julissa. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Merci beaucoup, Oumou, de m'avoir reçu. Puis pour toutes les personnes qui m'écoutent, c'est l'objectif du livre, justement, c'est qu'on vive mieux tous ensemble, qu'on arrête de se pointer du doigt, qu'on arrête de mettre des étiquettes les uns sur les autres. Donc, tu sais, faisons l'effort de s'écouter, de s'informer, de s'éduquer pour qu'on arrête de repousser les personnes qui auraient justement besoin.
Merci beaucoup, Julissa. Donc, on peut te retrouver sur ta page Instagram et sur ta page Facebook au nom de...
Julissa Paul Blanc.
Merci. Donc, c'était Oumou Guiro pour le magazine Dignité Noire. C'était ma chronique littéraire. On se retrouvera dans 2 semaines pour parler d'un autre livre. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.
Merci, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre l'entrevue qu'a accordée Madame Julissa Paul Blanc à Oumou sur son ouvrage auto-édité « Et si on existait ensemble » qui aborde la question de la santé mentale et puis du transgenre. Fait que vous pouvez retrouver cette chronique littéraire sur notre page Facebook ou en balado sur www.ckifm.org. On donne rendez-vous à Oumu dans deux semaines pour une autre pépite littéraire. Merci Oumu, ciao. À présent, comme annoncé, nous allons faire le tour du Québec. Nous allons vous amener visiter les différentes communautés de la province de Québec. En ce mois d'histoire des Noirs, alors nous allons voir comment les différentes communautés organisent ce mois de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que ça représente pour elles? À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer donc par la ville de Québec. Où est CKIA FM? Alors, je reçois à présent Mme Dey Marie Fall, qui est porte-parole de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Bonsoir, Mme Fall.
Bonsoir, bye.
Comment allez-vous?
Fatigué, parce que c'était une journée assez chargée.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la journée Cheikh Anta Diop. Fait que vous avez organisé une manifestation là-dessus. On reviendra là-dessus. Ben, je vais d'abord vous introduire à nos auditeurs et auditrices. Je vous ai reçu il y a 2 ans, ça fait longtemps, là, fait qu'il faut rappeler un peu quand même qui vous êtes aux gens, même si les gens vous connaissent tellement dans cette ville, j'imagine. Alors, Mme Fall, vous étiez enseignante à l'université à Dakar, aux États-Unis aussi. Vous êtes ancienne représentante de l'UNESCO au Québec, ancienne présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec, donc ça tombe bien. Présidente du Forum des ONG de la francophonie et présidente du collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie. Je voudrais juste faire bref, parce que si je dois lire toute votre CV, ça va faire 10 minutes, Madame Fall. Est-ce que c'est correct pour la présentation?
C'est correct.
Parfait. Alors, vous êtes porte-parole du mois de l'histoire des Noirs après en avoir été présidente à Québec. Le thème de ce mois, cette année à Québec, c'est rebâtir ensemble. Qu'est-ce qu'on rebâtit ensemble, Madame Fall?
Bonne question. Il y a tant de choses à rebâtir. Il y a la confiance à rebâtir avec tous les remous qu'il y a eu ces années dernières, que ce soit par rapport aux valeurs québécoises, que ce soit par rapport à la loi 21, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé à la mosquée, à la grande mosquée de Québec. Il y a tant et tant. Et puis après, évidemment, est venu s'ajouter Covid avec tout ce que nous savons, qui n'a pas fini en fait. Covid n'a pas fini de nous diviser, parce que d'une certaine manière, c'est ça. Non seulement il y a le confinement, mais il y a aussi la division par rapport à qui va se vacciner, qui veut se vacciner, qui ne veut pas se vacciner. Donc, il y a tout ça à reconstruire. Il y a aussi à construire des ponts entre ici et l'Afrique, parce que si l'on parle du mois de l'histoire des Noirs, c'est bien que nos origines sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour que nous puissions être dans notre plénitude, il nous faut construire des ponts avec cet ailleurs d'où l'on est originaire. Voilà, donc il y a plein de choses. Et effectivement, en plus, il y a aussi à bâtir, puisque nous sommes ici et nous voulons tout rebâtir, il y a à bâtir avec les peuples autochtones sur place. Et c'est pour cette raison que j'avais émis le désir, malheureusement, qui n'a pas pu se réaliser, d'avoir un ou une co-porte-parole jeune autochtone pour non seulement faire ensemble, puisque le chef Picard nous avait fait l'honneur de sa présence et de sa contribution le 23 août, qui était la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, pour avec nous reconnaître qu'il y a eu l'esclavage dans ce pays, non seulement l'esclavage des Noirs, mais aussi l'esclavage des Autochtones. Donc voilà, il y a tant de choses à rebâtir, tant de choses à revoir pour arriver à une société inclusive, apaisée. Voilà.
Tant de choses à... Vous parlez de la COVID donc, qui nous divise tant. Bah, samedi passé, il y avait des manifestations à Québec.
Pardon? Avec,
vous parliez de la COVID. Vous parliez de la COVID. Samedi passé, il y avait beaucoup de manifestations à Québec. Hein, je pense 2 ou 3 manifestations,
oui, oui,
opposant les,
oui,
pour et contre les vaccins, etc., les méthodes sanitaires. Oui. Faites. C'est un défi. La COVID est un défi pour la société, mais un défi aussi pour la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs qui organise pour la deuxième fois cette commémoration en virtuel. Est-ce que c'est très difficile de... Quels sont les défis pour organiser un tel événement en virtuel?
C'est certain que c'est un immense défi parce que rien ne remplace réellement la présence humaine, la présence physique, surtout lorsqu'on veut rebâtir. on ne peut pas rebâtir et être à distance. En tous les cas, ce n'est pas très efficace. Ça peut fonctionner, mais ça ne donne pas les résultats que nous voulons. Donc, c'est vrai qu'il y a ce défi-là, mais heureusement qu'il y a aussi des acquis. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, par exemple, nous avons pu avoir des intervenants de la Guadeloupe, de la Martinique, du Sénégal, du Togo, du Cameroun, etc., de Bruxelles, de Paris. Si on n'était pas on n'avait pas été forcé par la pandémie d'utiliser ces outils pour communiquer, on n'aurait pas pu les avoir parce que il faut de l'argent pour déplacer ces gens-là. Ça coûte les billets d'avion, ça coûte l'hôtel, ça coûte un certain nombre de choses. Donc,
la crise est aussi une opportunité là pour
oui,
le monde de l'histoire.
Ouais, voilà, c'est aussi une opportunité du point de vue technique de pouvoir être inventif et créatif. Voilà.
Là, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, là, qui sont curieux, qui ne sont pas noirs ou noirs, mais qui veulent découvrir voilà, la programmation.
Je ne t'entends pas très bien, Baye.
Je vais voir au niveau de la technique, tu peux augmenter un peu la technique. Bon, est-ce que c'est le téléphone portable, c'est normal que ça fasse cet effet-là. Bon, est-ce que ça va mieux maintenant?
Un peu mieux.
Bon, je pense que c'est le téléphone portable. Ça fait ce petit... cette petite caprice-là. Bref, alors je disais, quelles sont les activités que vous avez prévues pour bâtir la confiance ensemble, rebâtir la confiance? Si quelqu'un quelqu'un veut découvrir vos activités, qu'est-ce qu'il faut faire?
Dans le site de la table, il y a toute la programmation. Il y a quand même une quarantaine d'activités et il serait fastidieux de vouloir les énumérer. Mais il y en a dans tous les domaines.
Les principales.
Il y en a dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine culturel, les arts plastiques, le théâtre, la musique, que ce soit dans l'histoire, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs avec cette journée Cheikh Diop. Et pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Diop, c'est quand même l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle qui est un scientifique, un anthropologue, un ethnologue, un historien, etc. Il y a des tables, des conférences qui sont prévues aussi pour la lutte contre le racisme systémique. Il y a des activités sportives, etc., etc. Alors, sincèrement, je ne pourrais pas les citer chacune. Si les personnes qui veulent participer et voir la diversité, je les réfère au site de la table où tout est déjà disponible.
Il y a une page Facebook aussi, moi de l'histoire des Noirs QC, Québec pour Québec. Fait que tous ceux qui veulent prendre connaissance de la programmation, 40 activités qui sont sur le site internet et la page Facebook. Bref, j'aimerais qu'on aborde, il nous reste encore du temps là, mais j'aimerais qu'on aborde déjà la journée d'aujourd'hui, là, je sais que vous tenez beaucoup à cet événement-là. C'est la deuxième ou troisième fois que vous commémorez la journée Cheikh
Diop? Non, c'est pratiquement la cinquième fois.
Ah oui, déjà, le temps passe vite.
Quand j'étais président de la table, on avait déjà commencé à travailler sur cette journée Cheikh Diop. On en a fait la proposition, mais c'est devenu maintenant une institution quand moi j'ai pris après toi la présidence de la table.
Bon, pour la petite histoire, Madame Fall est présidente de la table. On était sur la table ensemble à l'époque. Tu sais, les gens ne savent pas que j'étais président de la table. Fait que je cache ça.
Ah ben oui, tu étais président de la table.
Je cache
ça. Tu as été le premier président de la table.
Bon, le secret est crevé. Alors, les gens, comme tu le sais, on en parle en privé parfois, les gens ne connaissent pas bien Cheikh Diop, même dans la communauté noire, n'est-ce pas? Alors que c'est l'un des deux plus grands intellectuels noirs avec Du Bois du XXe siècle. Peut-être juste dire un mot. Toi, tu l'as côtoyé, là, je pense. Tu as côtoyé Cheikh Diop, j'imagine.
Ah oui, j'ai eu l'honneur et le plaisir.
Peux-tu l'introduire à nos auditeurs?
J'ai eu l'honneur et le plaisir de le côtoyer, oui, c'est vrai.
Qui est-il en deux minutes, là? Qui est-il avant qu'on entre?
Alors, c'est difficile en deux minutes de brosser qui est Cheikh Diop. En tous les cas, cher Anta Diop Bene, Atchetou, qui est un village à une centaine de kilomètres de la capitale Dakar, dans le Djambour profond. Il a commencé d'ailleurs à apprendre d'abord le Coran et l'arabe avant de se retrouver à l'école française, puis est allé en France pour ses études supérieures. Et évidemment, lui-même dit qu'en fait, il s'est posé la question à un moment donné en disant, ben, avant l'esclavage, avant les Français, avant la colonisation, qu'est-ce qu'on était ? Et c'est en essayant de trouver une réponse à cette question qu'il s'est retrouvé des racines en Égypte. Et il dit, je n'ai jamais voulu me rattacher, moi, cher Anta Diop, à l'Égypte, mais la science m'a amené là. Et il dit d'ailleurs que si nous voulons avancer, il faut que nous nous armions jusqu'aux dents de science, nous, Africains.
Tout à fait.
Et donc, c'est comme ça qu'il a fait ses recherches et qu'il a trouvé que l'humanité entière, l'Homo sapiens, est née en Afrique. Et évidemment, ça, sur le temps très long, on parle de entre 140 000 années à le plus proche 70 000 ans. Donc, c'est propagé à travers la planète. Et au fur et à mesure de son expansion, de sa marche, s'est transformé de noir, s'est transformé par rapport au climat, par rapport à la végétation, par rapport à l'alimentation. Et ça a donné, évidemment, toutes ces diversités du point de vue ethnique à travers le monde.
Et, son fait
et quand il a soutenu cette thèse en 1953 à Paris, ses professeurs lui ont dit que c'était une opinion, c'était pas scientifique. Alors, il est reparti avec ses copies, il est revenu 7 ans plus tard, en 1960, avec des morceaux de momies qui prouvaient le taux de mélanine, etc., etc., pour bien prouver que les pharaons, etc., cette civilisation pharaonique de l'Égypte ancienne était une civilisation noire.
Et
évidemment, après, nous avons eu des squelettes comme Lucie. Et l'un de ceux qui ont trouvé Lucie dans ton pays, d'ailleurs.
Toumaï. Au Tchad, c'est Toumaï. Lucie, c'est en Éthiopie, je pense.
Toumaï, c'est Toumaï, c'est pas Lucie, c'est Toumaï qui l'a trouvé.
L'Éthiopie, c'est Copens. Lucie, c'est en Éthiopie.
Copens, donc, a confirmé, donc, je disais, il a donc soutenu en 1960, et là, après plus de 7 heures de soutenance, ses professeurs ont été obligés d'accepter que c'était scientifique et que ce n'était plus une opinion. Et alors, Yves Copens, à sa suite, a lui aussi, depuis 40 ans, lui aussi, il dit que nous sommes tous nés noirs et nous, Européens, nous sommes des décolorés. Voilà.
Parfait. Alors, on va avancer. Il reste 3 minutes, là. Donc, on reconnaît à Monsieur Cheikh Anta Diop, c'est d'établir que l'Égypte est noire, n'est-ce pas? L'Égypte, d'ailleurs, le mot Égypte, c'est un mot d'origine grecque, hein, ça veut dire Aigoptos, qui est devenu Égypte. Fait que c'est pas un pays arabe. Disons, les Arabes sont arrivés en Afrique au 11e siècle, au 7e siècle. Fait que l'Égypte, originellement, c'est un pays noir. Et encore aujourd'hui, Madame Fall, aujourd'hui même, il y a encore des historiens et anthropologues blancs qui contestent cette thèse-là en disant non, qu'on fait de la politique avec ça. Ben non, c'est pas parce que vers la fin de l'empire égyptien de l'époque qu'on appelle empire kémite, il y a eu beaucoup de métissage, etc. On nous présente toujours Cléopâtre comme si c'était une blanche. Non, l'époque de Cléopâtre, c'était l'époque du métissage par excellence de l'empire kémite, là. Mais les premiers étaient évidemment noirs et ça, c'est il faut accorder le crédit à Cheikh Anta Diop de l'avoir fait. Pourquoi vous tenez, il nous reste 3 minutes, Madame Fall, pourquoi vous tenez à organiser chaque année depuis 5 ans une journée Cheikh Anta Diop à Québec? Notons que le 7 février, c'est le jour de sa mort. Hein.
Ouais. Alors, parce que, d'abord, vous l'avez dit vous-même, que Cheikh Anta Diop est très peu connu. Déjà, il est très peu connu de beaucoup d'Africains. Je me souviens, c'était en 2019, sous une tempête de neige horrible. On avait organisé ça au Cégep Garneau.
Oui.
Et évidemment, le Cégep était fermé, mais nous, nous avons tenu à ce que notre activité se tienne. Et j'ai vu une jeune Africaine qui semblait perdue dans les couloirs du Cégep, et je suis allée à sa rencontre. Je lui ai dit, vous cherchez la salle où se passe l'activité de la journée chez Hanta Diop? Elle me dit non, j'étais venue pour mes cours, mais on m'a dit que c'est fermé. Elle me dit, c'est quoi ça? Alors je dis non, c'est pas quoi, cher Antodiop, c'est qui? Et j'ai essayé de lui expliquer. Je dis, ben, c'est une bonne raison maintenant pour venir le découvrir. Elle m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc si ça ne peut pas intéresser une jeune Africaine, je ne blâmerai pas un non-Africain de n'être pas intéressé à le découvrir. Mais je considère que bâtir ensemble, c'est ça aussi. Bâtir ensemble, c'est se découvrir.
Tout à fait.
Mais... bâtir ensemble, c'est de comprendre d'où vient l'autre et ce que l'autre a apporté ou a apporté dans cette construction d'un meilleur vivre ensemble ici.
Parfait. En une minute, Madame Fall, depuis 5 ans que vous organisez cet événement, avez-vous vu un certain engouement de la communauté noire même? Est-ce que les gens sont de plus en plus intéressés? Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est important que la jeunesse, nous-mêmes, tout le monde, puissions comprendre, lire nos aînés là, qui ont écrit sur nous. Est-ce que vous avez vu un engouement autour de ça, autour de Cheikh Anta Diop?
Ben, écoute, c'est difficile dans ce contexte-là de virtuel. Alors, si l'on prend les résultats de ce qui s'est passé tout à l'heure, nous avons eu plus de d'une centaine de personnes connectées directement. Mais si on regarde ceux qui se sont et celles qui se sont connectées sur toutes les plateformes, nous avons eu plus de 1000 personnes.
Super, c'est très bien ça, Madame Fall.
Donc,
bravo.
Donc ça veut dire que quand même, il y a des gens qui... parce qu'il n'y a pas que les plateformes d'ici, hein. Il y a les plateformes qui sont aussi en Afrique. Hein.
Tout à fait. Nous,
donc,
on a
les partenaires
sur notre page
qui sont
aussi
en Afrique ont eu leur plateforme, ont eu des vues là-bas, ici, des vues ici. Bon, je pense que ça montre bien que oui, ça aussi, c'est un acquis d'avoir la possibilité de le faire en hybride. Mais là, on était en version complètement virtuelle. Mais ça, c'est un des avantages du virtuel.
Parfait, Madame Fall, c'est tout le temps que nous avons. J'espère vous réinviter pour faire le bilan du monde de l'histoire des Noirs. Mais je partage complètement cette préoccupation de la connaissance. Comme dit Cheikh Anta Diop, il faut, nous les Africains, nous les Noirs, nous devrons nous armer jusqu'aux dents de science. Et malheureusement, la communauté noire est un désert culturel. Hein. Malheureusement, il faut l'admettre, là, c'est un désert culturel. Nous avons sauté mains et pieds liés dans la société de consommation, nous ne voulons plus lire. Nous, à Dignité Noire, c'est ce que nous faisons. Taper sur la culture, c'est important de lire. Merci beaucoup, Madame Fall. Je rappelle que vous êtes porte-parole du monde de l'histoire des Noirs à Québec. Je vous souhaite un excellent mois de l'histoire.
Merci à vous et merci aux auditrices et auditeurs.
Merci, salut. Monsieur, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Nous sommes le 7 février. Alors aujourd'hui, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Fait que je me suis promis de vous faire découvrir ce mois-là à travers les communautés noires qui sont répandues partout au Québec. Il y a beaucoup de personnes noires à travers le Québec. Hein. Je ne sais pas, c'est combien? 200, 300 000 personnes à Québec? Dans la ville de Québec, nous sommes quoi? 13 000, 14 000, là, je crois. Là. Non, 10 000. Non, Brice, ce n'est pas 10 000. On est plus que ça, là. Au dernier... 15 000, oui, presque ça, 15 000. Au dernier recensement en 2017, il y avait 2,4% de Noirs à Québec sur une population de 545 000. Québec intramuros, là, pas l'agglomération. Fait que ça fait En 2017, donc, on était 13 000. Il paraît qu'aujourd'hui, nous sommes 14 000. 14 000 noirs. C'est vrai que c'est une goutte d'eau là, dans la mare, dans la mer, dans l'Atlantique blanc du Québec. Mais bon, on existe et puis on s'affirme, on affirme notre dignité. Alors, je vous ai fait découvrir un peu le monde de l'histoire des Noirs à travers Marifal, à Québec. Là. Maintenant, je vous amène à Gatineau pour vous faire découvrir le monde de l'histoire des Noirs à Gatineau avec la maestro, celle qui l'organise, Madame Aïché Koné. Bonsoir, Madame Koné.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien, et vous?
Merci beaucoup. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur Dignité Noire. L'année dernière, on en avait aussi parlé.
Oui, effectivement, alors, on avait eu une rencontre l'année passée.
Vous êtes la personne la mieux désignée pour parler de ce mois parce que vous êtes la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Vous êtes d'origine sénégalaise et malienne. Félicitations hein, pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Hein. Ah, vous avez vu, merci. On est encore en train de fêter.
Ah, ouais, ouais.
Mais c'est tout le monde qui a gagné. Je pense que hier, on était d'accord que toute l'Afrique avait gagné.
C'est toute l'Afrique qui a gagné. Mais c'était deux belles équipes, l'Égypte et le Sénégal. Mais j'avoue, moi, j'adore l'équipe du Sénégal. Vous avez un magnifique jeu. C'est la meilleure équipe africaine. Et puis bravo à vous, bravo à toute la communauté sénégalaise du Québec.
Merci beaucoup.
Alors, Madame Koné, vous avez grandi en Italie. Vous êtes arrivée ici au Canada comme immigrante. Vous êtes titulaire d'un bac en sociologie et vous travaillez en tant qu'éducatrice spécialisée avec les jeunes en difficulté. Selon vous, le besoin d'une structure pouvant soutenir les communautés noires est essentiel, raison pour laquelle vous vous êtes engagé au sein de l'organisme Conseil de la communauté noire de Gatineau. Et puis là, je rappelle que cette année, pour marquer votre engagement, vous avez reçu le prix, le mérite du citoyen de la ville de Gatineau pour votre engagement communautaire. Bravo! Vous êtes une
merci
personne
beaucoup,
très bien impliquée
merci,
dans votre milieu. Et vous êtes coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Quel est votre thème aujourd'hui, cette année? C'est quoi le thème d'organisation, le thème du mois de l'histoire des Noirs chez vous? Parce que là, je rappelle aux auditeurs, auditrices, chaque ville a un peu plus son thème. Québec, c'était rebâtir ensemble. Vous, à Gatineau, c'est quel thème cette année?
Non, cette année, c'est mieux faire ensemble. Je pense que les thèmes se rejoignent pas mal les uns les autres.
Ah oui, c'est vrai ça.
Donc le thème qui a été choisi par le comité, parce que encore une fois, c'est vraiment un travail fait par un comité.
Okay.
Moi, je suis peut-être la chef d'orchestre, mais il y a toute une équipe derrière moi. C'est un thème rassembleur, mieux faire ensemble. Parce que on pense que bien qu'on ait accompli des grands pas de géant, nous sommes encore conscients qu'il reste beaucoup à faire. Et puis, on ne peut que le faire en collaborant, mais en faisant mieux entre nous aussi.
Ouais, ça se ressemble un peu la thématique. Le contenu, c'est quoi le contenu de votre programmation cette année? Quelles sont les activités que vous avez prévues?
Bon, cette année, le CCND ainsi que la ville de Gatineau ont vraiment essayé de mettre le paquet pour donner comme une palette de conférences. Encore une fois, si vous allez sur le site mhngatineau.com, vous allez le voir, toute notre programmation du mois. Nous avons eu notre lancement. Nous avons des conversations. La première a eu d'ailleurs lieu ce samedi avec le docteur Kalula Kalambay. Nous avons des projets. On donne vraiment beaucoup. On voulait donner une plateforme aux jeunes avec le projet Négritude. Mercredi, nous avons nos conversations un peu plus sur des thématiques santé mentale. Nous avons une conférence avec qui parle du vivre ensemble, qui est très présent dans notre ville. Nous avons des comptes pour les tout-petits parce que les personnes ont redemandé, c'était très étonnant d'ailleurs.
Les comptes africains, c'est ça?
Oui, c'est ça, des comptes africains et des comptes haïtiens.
Okay.
Donc, tous les deux dimanches et deux samedis, nous aurons les comptes philosophiques et les comptes haïtiens offerts par Sylvère Desrosiers et Marie-Evelyne Bellinga. Donc, c'est une place encore aux tout-petits. Et bien sûr, notre journée noircissons. Ça, c'est la journée vraiment traditionnelle chaque année où nous avons, bien qu'elle soit en virtuel, malheureusement encore pour cette année, les artistes seront présents, y aura des spectacles et de la danse.
Ok. Vous avez cité le projet Négritude pour les jeunes. En quoi ça consiste? Je suis curieux de savoir ça. Là. En quoi ça consiste ce projet-là?
Le projet Négritude, c'est un projet qui a été présenté par une jeune femme qui s'appelle Carmel Amoussou. Et vraiment, le titre Négritude, bien sûr, qui vient de Aimé Césaire,
ouais.
Mais cette année, la thématique, parce que chaque année, elle est présente. Ça fait déjà 2-3 ans que nous avons un partenariat avec elle. Et c'est vraiment que ça donne une certaine vision sur certaines personnalités de la ville qui œuvrent dans la vie, dans la communauté noire. Et cette année, le thème dans le projet Nécritique, c'est l'entrepreneur, les entrepreneurs dans la ville. Donc, ça sera vraiment... le lancement s'est fait la semaine passée, le dimanche, ouais, hier justement. Et nous... il y aura des conférences par rapport à tout ce qui est entrepreneur dans la ville.
Parfait. Dites-moi, Madame Koné, la communauté noire de Gatineau, ça représente combien de personnes environ? En entrée, avant l'émission, je disais qu'à Québec, nous étions 14 000 noirs. À Gatineau, vous êtes combien?
Oh, mon Dieu. Je sais qu'on représente quand même un bon... pas très, je dirais pas... L'immigration, les communautés immigrantes en tant que telles, interculturelles, c'est 13%. La communauté noire en tant que telle, je pourrais pas te dire...
L'année dernière, j'avais appris que c'était 19 000. Mais peut-être que vous êtes rendu à 20-21 000 maintenant, je ne sais plus. Mais vous êtes une grosse communauté.
Ça augmente très rapidement.
Ben, j'étais surpris que vous nous dépassiez à Québec quand même. C'est la capitale de la province. Mais...
Ah oui? Ah ben... écoute...
C'est les gens d'Ottawa là, qui alimentent.
Hein,
c'est
grandi, les... là, comme je pense que... Je pense qu'on est un peu plus même que 19 000 parce que je pense que vers, moi ce que je vois selon des statistiques, là je vois rapidement, c'est 45 000.
Ah ça, oui, quand même. Ben, c'est vrai qu'avec, oui, vous, êtes 2016, vous êtes à côté d'Ottawa. Hein.
Exactement.
Ouais, donc peut-être, ça vous alimente
donc,
aussi pas mal.
Plus Ottawa aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent ici mais qui vont travailler à Ottawa.
Hey, mais c'est une grosse communauté. Je pense qu'après Montréal, c'est vous là, la plus grosse communauté.
Effectivement.
Parfait. Alors, quels sont les défis là pour vous? C'est quoi, moi, j'aimerais connaître un peu là. Quels sont les défis de la communauté noire de Gatineau? À quoi vous faites face comme communauté là pour occuper votre place là-bas? C'est quoi vos défis, les défis de la communauté là-bas?
Les défis de la communauté noire en tant que telle, oui. On peut dire que ils sont nombreux, mais je pense pas qu'ils sont insurmontables. Nous avons, comme dans les autres villes, je pense, l'accès au travail, l'accès à les défis par rapport à la santé mentale qu'on touche aussi pendant ce mois-ci. La santé mentale, c'est encore tabou. Oui. Puis moi, en tant que, tu sais, je travaille dans le social, donc je le vois. Okay. Souvent, je vais être en contact avec une certaine détresse. Et puis, tu sais, aller rechercher l'aide, c'est encore quelque chose qui est peut-être un peu difficile. L'accès au service par rapport à la santé mentale, l'accès à un emploi équitable. Mais je pense que ça, c'est les défis qu'on a. Mais je pense qu'il y a des pas de géants qui ont été faits. Il y a des pas qui continuent à être faits. Il y a une conscience. Les gens prennent conscience que le problème est là. Et on essaie de mettre des choses en place pour pouvoir trouver une solution.
Sur la question de la santé mentale, vous avez raison là, de mettre l'accent dessus. Parce que même, on n'en parle pas beaucoup dans notre communauté. Moi, ici, là, j'entends à travers des gens... là, que c'est aussi un véritable enjeu, même dans notre communauté à Québec, mais personne n'en parle. Fait que c'est important de mettre l'accent dessus, là, revenir là-dessus. Nous, on essaie d'en parler à la radio, là, on va revenir là-dessus. Mais ce qui est certain, la communauté noire de Gatineau est très bien organisée. Vous avez le conseil de la communauté noire de Gatineau. Moi, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes très dynamique avec votre présidente Aïchatou aussi, que je connais, qu'on a reçu plusieurs fois ici. Pour l'organisation du mois de l'histoire des Noirs, c'était très difficile cette année avec la pandémie, tout ça. Est-ce que... C'est difficile, les gens suivent les activités. Quels sont les problèmes que vous rencontrez ou des opportunités? Madame Fall nous a parlé des opportunités aussi, de parler avec des gens qui sont dans d'autres pays loin de Québec. Vous, à votre niveau, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile?
Mais
vous en sortez chose, comment?
Comme vous dites, j'ai une bonne équipe. Le conseil de la communauté noire de Gatineau a fait un travail exceptionnel avec à sa tête Aïchatou Touré, qui d'ailleurs fait partie d'une des ambassadrices de notre ville, parce qu'elle a reçu elle a reçu l'ordre de la ville de Gatineau.
Ah oui. Donc félicitations à elle de notre part.
Exactement. Donc je pense que le travail est là. Mais curieusement, moi je trouve que bien que ça ait été virtuel, pour moi le virtuel a ses pour et ses contre. C'est sûr que ça nous enlève tout ce qui est chaleur humaine, mais comme justement vous l'avez fait noter, ça nous donne accès à plus d'activités dans le confort de la maison. Donc, tu sais, on a eu justement différents partenariats avec différentes villes, ce qu'on n'avait pas avant forcément. Mais là, tu sais, on a des tables rondes qui vont s'organiser avec notamment les mines en Casabucal, au Bas-Saint-Laurent. On va discuter avec des personnes de Rimouski, du lac Saint-Jean. Donc, moi, je trouve que ça, c'est formidable. Et effectivement, on a même eu des conférences avec des personnes qui étaient au Mali. Ah, donc, moi, je trouve que, tu sais, le virtuel, certes, ça nous enlève, tu sais, une partie de contact humain, mais ça nous permet des plus grandes discussions et ça nous permet une plus grande ouverture.
Alors, vous, vous êtes la boss du monde de l'histoire des Noirs à Gatineau, hein, si vous
l'accordez. Je ne suis pas la boss,
vous êtes la je vous taquine. C'est pour vous taquiner.
J'aide, comme je dis, j'aide à coordonner pour que, tu sais, je suis comme une sorte de médiatrice. Moi, je me vois plus en tant que...
Ouais, alors, je rappelle aux auditeurs et auditrices que je suis avec Mariam Aïché Kone, qui est coordonnatrice du monde de l'histoire des Noirs. Juste en une phrase, en une phrase. Donc, la coordination du monde de l'histoire des Noirs, c'est quoi? C'est un sous-projet de l'organisation. C'est un organisme conseil de la communauté noire de Gatineau ou c'est un organisme à part? Comment ça se...
En fait, c'est en partenariat avec la ville. Donc, nous travaillons de concert avec la ville et bien sûr, le conseil de la communauté noire de Gatineau occupe un rôle très pondérant dans le tout, en fait. Mais, en fait, il n'y a pas de mois de l'histoire des Noirs. Il n'y a pas de mois de l'histoire des Noirs sans le conseil de la communauté.
Mais je veux dire, le mois de l'histoire des Noirs à Gatineau, c'est un OBNL à part? Ou c'est quoi?
Non, c'est vraiment... c'est organisé par... Ben, à l'origine, c'était la ville.
Okay.
Et puis là, comme j'ai dit, le CCNG est en train de prendre la relève, au fait.
OK, donc vous êtes une structure. Vous êtes une structure du conseil de la communauté noire de Gatineau.
Exactement.
Parce que là, je vois que pendant la pandémie, avec les outils technologiques, ça offre quand même des opportunités hein, pour se connecter pendant l'organisation du mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que vous comptez continuer à utiliser ces réseaux en virtuel, distanciel, comme on dit, même si nous revenions en présentiel après la pandémie, parce que j'espère que cette pandémie aura une fin, là. Est-ce que vous allez garder toujours l'utilisation des outils virtuels pour vous connecter avec les gens d'autres villes, d'autres pays?
Oh oui, sûrement. C'était déjà une décision qui avait été prise parce que cette année, on pensait peut-être qu'on aurait pu aller en présentiel, puis dernière minute, on a dû changer, mais on avait déjà pris une décision ça serait hybride, au fait. Okay. Il y a certaines conférences qui seraient en virtuel et d'autres, comme par exemple notre journée Noircisson, parce qu'il y a beaucoup d'exposants qui sont là, c'est sûr que ça allait être en présentiel. Mais par exemple, une partie des conférences, c'est sûr que ça allait être en virtuel.
Parfait. Est-ce que la ville de Gatineau vous soutient fortement, moyennement ou pas du tout pour l'organisation du monde de l'histoire?
On a beaucoup de... Oui, ils nous soutiennent, ça, c'est sûr et certain.
Quoi? Ils vous donnent de l'argent? Ils vous donnent de quoi? Quelle forme de soutien? Financier, matériel ou quoi?
Ben, il y a financier, puis les différentes... on a accès aux salles.
OK, ça c'est bien.
Donc, on a une certaine gratuité avec les salles et tout. Donc, c'est sûr que la ville, on les remercie à chaque année. Ils sont plus qu'importants dans toute cette structure-là.
Mais c'est bien de savoir que les élus de la ville de Gatineau vous soutiennent. D'ailleurs, je rappelle que l'année dernière, aux élections municipales, il y avait quoi? Deux conseillères noires? Ou combien, si je me trompe, Jean?
Ben, il y en a deux qui ont remporté, oui. Bettina Bélisère et Olive Kamanyana.
Olive, que je connais très bien aussi, oui. Ah, oui, c'est ça,
qui sont nos conseillères. Donc, oui, on est contents. On voit qu'on prend de la place. On prend notre place. C'est très important.
À Québec, on n'en a aucune encore. Et je rappelle.
Oui, et je pense à Côte des Neiges, à Montréal aussi.
Oui, à Montréal, il y en a pas mal quand même. Montréal, Longueuil, il y en a pas mal. Ouais. Bah, là où il y a une. Exactement. J'ai l'impression que là où il y a une forte communauté noire, bah, ça génère, ça donne des élus. Hein. À Montréal, à Gatineau, tu sais. À Québec, on est tellement petit que ça ne peut pas se transformer en gain politique. Bref.
Oh, mais ne désespérez pas, moi, je
pense. Non, on ne désespère pas.
On ne désespère pas. Moi, j'ai été candidat deux fois, même si je n'ai pas perdu. J'ai perdu deux fois. J'ai dit, c'est bon, il faut être présent, même si on ne gagne pas. C'est, il faut ouvrir
exactement.
Les voies. Moi, l'image que je donne, j'ai dit, bah, c'est comme ouvrir une porte. Hein. On ouvre petit à petit. Et puis, à un moment donné, pouf, la porte va s'ouvrir grandement pour que quelqu'un entre. Fait que nous autres, là, on essaie de forcer la serrure là, pour que ça s'ouvre un peu. Bref, rappelons qu'à Gatineau, c'est quand même, je pense, c'est une ville qui accueille bien les Noirs parce que le premier député de Québec, le premier député noir de la province de Québec, bah c'est ça, il vient de Gatineau. Hein. Fait Gatineau, vous avez une tradition, vous avez une tradition d'ouverture à l'égard des communautés noires. Bravo, chapeau aux gens de Gatineau.
Oui, vraiment. Que Québec, je pense que Gatineau est une belle place. Et puis, comme on dit, on travaille sur le vivre ensemble. Puis je pense que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de personnes qui embarquent.
Que Québec donc, s'inspire de vous.
Ah, ben oui, je pense que ça s'en vient comme tranquillement, pas vite.
Parfait. Alors. Où est-ce qu'on peut retrouver toute votre programmation, vos activités? Des liens, là, site internet, page Facebook, Instagram. Est-ce que vous pouvez donner ces liens-là à nos auditeurs et auditrices?
Ben oui, toute la programmation se trouve sur mhngatineau.com.
Okay.
Et bien sûr, si vous voulez, toute la programmation, tout est rediffusé sur la page du Conseil de la communauté noire de Gatineau. La page Facebook et la page du Mois de l'Histoire des Noirs de Gatineau. Donc, tout est là et puis allez-y. Moi, je vous dis, soyez curieux cette année. Allez-y sur le site et puis nous en avons pour tous les goûts. Là, comme,
quel est l'engouement?
Nous touchons chaque aspect.
Quelle est la réception, Madame Aïcha Koné? Quelle est la réception? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que les Noirs de Gatineau sont plus intéressés ou que d'autres communautés sont plus intéressées? Quelle est la participation?
La beauté de la chose, c'est que oui, les Noirs, moi j'adore le mois de l'histoire des Noirs parce que souvent je dis que pendant cette période-là, on est tous en symbiose, là, comme à travers les provinces, à travers la ville, on travaille tous sur le même objectif, mais c'est pas juste les Noirs, la communauté noire, c'est aussi les personnes, les autres communautés qui sont curieux et puis qui aiment, qui viennent, qui participent à nos rencontres virtuelles. Et quand ça se fait en présentiel, vous serez étonnés de voir le nombre de personnes que je vois, québécois, de toutes les communautés. Et ça fait un beau melting pot, moi, c'est ça que j'appelle ça comme ça. Et les gens, vous sentez que les gens, ils veulent apprendre sur les autres. Et c'est la meilleure manière d'éradiquer toutes sortes de discriminations. C'est en éduquant.
Comme dit Nelson Mandela, c'est par l'éducation qu'on a mis dans la tête du monde le racisme. C'est par l'éducation qu'on va retirer le racisme. Et comme dit aussi notre grand frère, Amilcar Cabral, il faut être solidaire de toutes les justes causes. Donc le monde de l'histoire est noir. Comme vous le dites là, il ouvre sa porte aussi à toutes les autres communautés qui veulent nous connaître, qui veulent partager avec nous leur richesse, leur histoire, leur peine, leur joie. C'est une belle occasion de rencontre en ce mois de l'histoire des Noirs, un mois chaleureux malgré le froid. Merci beaucoup Madame Aïcha Koné. Salutations à toute la communauté noire de Gatineau. Puis j'espère que nous, moi et Brice là, de l'émission, un jour on passera là-bas à Gatineau vous voir.
Ah ben oui, c'est un rêve de faire peut-être une édition nationale et puis à tour de rôle, ça serait magnifique.
Parfait. Un dernier mot là pour les gens qui nous écoutent, vous avez un dernier mot? Il nous reste
Dernier mot, comme dirait Nelson Mandela, aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc faisons de ce mois un succès tous ensemble. C'est tout ce que je peux dire.
Oh, qu'est-ce que je peux dire de plus? Madame Aïcha Koné, vous êtes coordonnatrice du Mois de l'Histoire des Noirs de Gatineau. Vous étiez avec nous pour nous présenter, nous parler du monde de la communauté noire de Gatineau et aussi de l'organisation du Mois de l'Histoire des Noirs. Merci beaucoup, bonne célébration et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Nous sommes le 7 février 2022. Le temps passe vite, mon cher Brice. Il faudrait bien qu'on prenne une heure de plus pour cette émission-là. C'est tellement intéressant. On découvre des communautés noires d'un peu partout. On rencontre plein du monde. Madame Falky avait plein de choses à nous dire. Mais bon, il fallait toutes belles choses à une fin. Si c'était trop long, ça n'allait pas être si bon. Alors nous allons arrêter ici pour aujourd'hui en nous promettant de nous retrouver lundi prochain. Si tout se passe bien, Inch'Allah. Je rappelle que j'étais avec Madame Fal, porte-parole du monde de l'histoire des Noirs de Québec. Et Madame Aïcha Koné, coordonnatrice du Mois de l'Histoire des Noirs de Gatineau, parce que pendant ce Mois de l'Histoire des Noirs, nous allons vous amener à visiter, à découvrir les communautés noires à travers le Québec. Donc, la semaine prochaine, nous allons vous présenter deux autres communautés noires dans deux autres villes et deux autres organisations de deux mois de l'histoire des Noirs à Québec. D'ici là, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Ciao.
Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org. Poursuivez la réflexion sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Vous écoutez CKIA et le magazine Dignité Noire.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
It's going down, and you're invited for what they're selling. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying. It's going down, and you're invited for what they're selling. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying.
It's Going Down is a digital community center from anarchist, anti-fascist, autonomous, anti-capitalist, and anti-colonial movements. Our mission is to provide an autonomous and resilient platform to publicize and promote revolutionary theory and action.
Go to itsgoingdown.org for daily updates. Check out our online store for ways to donate and rate and follow us on iTunes if you like this podcast.
So, hey, I'm Alexis. I'm part of Punch Up Collective here in unceded Algonquin land, Ottawa, Ontario, Canada.
And I'm Chris. I'm also a member of Punch Up Collective.
All right. Well, thank you so much for joining us. We're going to be talking about what's going on in Ottawa, and we're just going to dive into it. So let's go back to the beginning. What's the initial thing you want to just kind of say to everybody listening about what's happening on the ground right now?
So there's so many first things I want to say to everyone. I guess, you know, like I could start by saying before this convoy rolled into our city, we had a bunch of conversations about what's coming up, like what kind of resistance is happening. You know, we were sort of like, is anyone working on this? We looked around, we asked people, and then